nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Vous attachez à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans Focus, les écrits restent, la parole aussi désormais. Nous recevons aujourd'hui Jeanne Bordeaux, qui dirige l'Institut de la qualité d'expression. Jeanne Bordeaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes passionnée du langage, vous défendez la qualité d'expression dans de multiples domaines. En quoi, selon vous, la qualité de l'oral vous apparaît-elle fondamentale au jour d'aujourd'hui ?
Je crois que plus que jamais, un dirigeant, un manager, un entrepreneur doit être un acteur et incarner son discours puisqu'il est, je dirais, pris par le multimédia. Donc il est à la radio, il est sur scène, il est dans une télévision et à tout moment, il doit savoir mettre en scène son action pour la présenter à des publics divers.
Comment vous est venue cette idée de créer un institut particulièrement dédié à la qualité de l'expression ?
La qualité de l'expression est un capital pour l'entreprise et j'ai toujours été surprise que l'on parle de l'image. Je crois qu'une entreprise est représentée par son image, mais tout autant son langage. Mon étonnement a toujours été grand de penser que de nombreux directeurs de la communication, au fond, ne réfléchissaient peut-être pas au fait que le premier outil de communication dont ils se servaient plus que tout, c'était l'expression écrite et orale à tout moment.
En quelle année vous créez l'Institut ?
Alors, je crée l'Institut en 2002 et nous avons commencé nos grands premiers dossiers en 1998 avec des dossiers très marquants qui sont presque un peu historiques et qui étaient pour la Poste.
D'accord. Quelles sont vos missions ? Comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce que vous proposez en fait comme service, comme aide, comme conseil ?
Alors on les a inventés. Je dis toujours, nous sommes inventeurs de méthodes. Donc nous avons considéré, et c'était un de mes premiers postulats, qu'il y avait désormais trop de diffusion de messages et que peut-être la première chose qui devait être réfléchie, c'était la cohérence et une réflexion et un retour sur le sens. Donc un des grands premiers outils sur lesquels j'ai travaillé, avec des linguistes, avec des philosophes, avec de nombreux, je dirais, étudiants au sens noble, parce qu'ils peuvent être étudiants à vie de la langue, et j'ai demandé à des experts de réfléchir à nos côtés, à la fondation et création d'audits, et donc on réalise ces audits pour les entreprises. Ensuite, nous avons travaillé beaucoup sur des programmes qui concernent les lettres et qui sont tout un concept nouveau que l'on appelle la réflexion sur la relation avec le client. Il est clair qu'à tout moment, là encore, on communique de façon personnelle avec son client par le biais d'une lettre. Donc, des grands organismes, les banques, les compagnies d'assurance sont vraiment régulièrement en train d'écrire à leurs clients. Donc la lettre commerciale est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Ensuite, on a fondé une troisième grande ligne d'action qui était le conseil en expression, parce que je crois qu'au fond, on a réintroduit la rhétorique dans l'entreprise. Et vous le savez tout autant que moi ici, l'enseignement de la rhétorique a été arrêté en 1904 en France. Et eh bien, je crois qu'on est quand même à une époque où l'art et la manière et la façon de dire appartiennent complètement à des actes de communication qui doivent être réfléchis.
Est-ce que vous travaillez aussi vers le grand public au travers de conférences ou de séminaires ?
J'enseigne déjà, je suis intervenante donc à la Sorbonne et dans l'école de l'écrivain italien Alessandro Baricco en Italie, à Turin. Par ailleurs, effectivement, nous faisons de nombreuses conférences. Les entreprises vont nous inviter pour sensibiliser et faire prendre conscience à des publics internes de ce qu'est l'importance, par exemple, de leur discours, de la cohérence des choses internes échangées et des choses internes et externes qui sont dites. Donc, c'est une réflexion sur la mise en commun et sur le sens et le sens des mots. Quand il y a des situations de crise, c'est souvent parce qu'il y a eu des malentendus. Et puis, je crois que tout le monde est conscient que même s'il est diplômé d'HEC, il peut avoir du mal à tourner une lettre. Et il y a cette jolie phrase qui dit « Si j'avais eu le temps, je vous aurais écrit un texte bref ». Donc, ce n'est plus parce qu'on écrit court qu'on ne doit pas écrire juste.
Donc vous intervenez plutôt dans le privé ou le public ou les deux ?
Tout autant, nous avons travaillé auprès d'un ministre pour intervenir sur la LOLF, comme on a pu intervenir auprès d'un scientifique tout à fait brillant qui travaille sur le prion et qui nous a demandé d'intervenir à ses côtés pour l'intelligence de la vulgarisation de son discours. Et parfois, on peut être aux côtés d'un jeune entrepreneur qui débute et qui se rend compte que la posture qu'il va prendre, la façon qu'il a d'être et d'apparaître aux autres dépend de son discours. Est-il dans un discours modéré mais conquérant ? Est-il dans un discours qui va être un peu trop marketing et vendeur et qui n'est peut-être pas le ton de la communication ? Le marketing et la communication, cela n'est pas la même chose. Donc il y a des personnes isolées, des auteurs, des entrepreneurs, des responsables d'associations, des responsables d'OPAC. On a travaillé sur la langue dans le logement social. On est amené à conduire des missions vraiment très riches et très différentes.
En quoi vous vous différenciez d'une agence de communication classique ? Pouvez-vous y revenir ?
Je crois que la première démarche de l'Institut, c'est quand même de publier des études, d'avoir un temps de réflexion, de travailler avec des talents très divers, puisque on peut travailler avec des personnes qui ne sont pas dans le temps économique bousculé de l'entreprise. Et je pense que ce que l'on va apporter, c'est cette capacité d'être un observatoire, d'être un lieu où l'on conjugue des talents et des expertises avec des personnes qui ne sont pas dans notre entreprise, mais que l'on sait aller chercher. Et puis, je crois aussi qu'on travaille vraiment sur le sens, donc sur l'échange interne, maïotique quasiment, qui est nécessaire pour se connaître toi-même, que l'entreprise oublie souvent. Les agences de communication, j'en ai une par ailleurs, j'anime une agence de communication, eh bien, elles vont travailler sur un temps plus court, pour des moments de diffusion qui peuvent être très exacerbés. Elles n'ont pas toujours le temps de réfléchir à la cohérence des actions montées qui vont être diversifiées, parce que dans la communication, vous avez des gens qui vont venir de l'événementiel, d'autres du lobbying, d'autres des relations presse, et que tout ça, là encore, n'est pas toujours pensé avec une stratégie des messages qui remonte jusqu'au président, qui lui doit avoir la vision de ces mots qui font son âme.
Vous avez dit dans une interview que la communication orale est un enjeu déterminant. Comment mesurez-vous la qualité de l'oral ?
Il est clair qu'un des objectifs de l'Institut est de créer des outils d'évaluation parce que nous pensons que la qualité peut se mesurer. Donc nous avons créé un oraloscope qui est un outil de mesure de la qualité de l'expression orale. Alors, pourquoi l'oral est devenu important ? Parce que désormais, à tout instant, ce que vous dites, grâce aux nouvelles technologies, peut être inscrit. Donc, le rapport entre l'oral et l'écrit a beaucoup évolué. Mais cet outil de mesure de la qualité de l'expression orale a un avantage, c'est que nous parlons tous correctement. Donc, comme il s'agira de s'améliorer, puisqu'on va travailler auprès de personnes qui ont à parler souvent, beaucoup, dans les situations les plus différentes, on peut, par cet oraloscope, puisqu'on l'a ainsi nommé, savoir quels sont ses propres atouts et ses faiblesses. L'idée étant que nous débutons par l'amélioration, d'ailleurs, des atouts détectés. Donc, il y a une notation, un outil d'évaluation, et quand nous commençons de travailler, celui qui vient travailler à nos côtés s'auto-évalue. Nous l'évaluons et 4 mois plus tard, il peut mesurer les progrès accomplis et ce qui lui reste encore à parcourir.
En quoi l'oral est un vecteur de personnalité ?
Je pense que quand on est en train de s'exprimer à l'oral, on sait que le langage est fondé de ce logos et de ce pathos, de rationnel et de sensible, de construction d'une pensée et d'émotion. Et je crois qu'à l'oral, on est peut-être plus obligé d'équilibrer la dimension rationnelle et sensible parce que on s'incarne dans le discours, que votre voix, elle, je veux dire, traduit votre émotion. À l'écrit, on peut écrire ces célèbres PowerPoint avec des infinitifs et des brochettes de substantifs à l'infini en restant dans un discours rationnel, froid et desséchant où l'on a peu besoin de s'impliquer. Alors, c'est ce que les entreprises commencent d'ailleurs de réaliser, c'est que même à l'écrit, désormais, la dimension sensible, l'émotion, l'imaginaire, la capacité allégorique doit désormais être là.
Je terminerai sur une question plus philosophique. Que veut dire, selon vous, bien parler, finalement ?
Alors, je crois que quand on aime la langue, on est quand même aussi musicien et qu'on aime l'harmonie, l'accord. Et je dis toujours que le parler vrai, qui est un grand sujet de débat actuel, un peu cliché, un peu éculé, un peu usé, pour moi n'a pas lieu d'être. Ce qui compte, c'est que quelqu'un parle juste et qu'on le sente en accord avec la structure qu'il représente, avec ce qu'il incarne, que ses publics externes et internes, ils sachent les relier parce que le langage va créer ce lien. Donc, comme le mot qualité veut dire qualis, je sais que je dis toujours, et aujourd'hui ça prend tout son sens, nous ne sommes pas une académie, c'est-à-dire que nous allons dire à ces entreprises ce qui est en adéquation avec leur âme et avec elle, ce qui est juste pour elle. Donc, demandons-leur de se connaître, de parler juste et de parler non pas en étant obsédé par ce mot vilain qu'est la différenciation, mais en cherchant à exprimer au mieux ce qu'elles ont d'unique.
Comment trouvez-vous notre époque du point de vue de la qualité de l'expression ?
Riche, foisonnante, avec beaucoup de diversité. Je pense que le web, je pense que toutes les communautés qui utilisent ces patois technologiques nouveaux sont en train de compléter le langage. On dit toujours, cela va abîmer la langue. Je crois que ça, c'est vrai et pas vrai, parce que dans ces mots que toutes ces communautés nouvelles différentes font circuler, il y a des mots très imagés, il y a des expressions que l'on retiendra parce qu'elles appartiennent à l'inconscient collectif. Alors, ce qui est le plus malmené, et là je donne toute raison à un grand homme de cet institut qui est M. Orsena, c'est la syntaxe. Il est clair que ce qui change, c'est le mode de construction de la pensée, mais bon, on a une nouvelle ergonomie, on a un écran, donc ça veut dire peut-être qu'on va développer le sensible, la capacité métaphorique, l'image, une langue peut-être plus charnelle, plus évocatrice. Donc, est-ce que l'on veut être compris au mieux ou est-ce qu'on sera obsédé uniquement par la correction de la langue ? Et je crois que ce qu'il faudrait réussir, c'est combiner les deux. Une langue correcte, mais une langue émouvante. Une langue qui bouge profondément ceux auxquels elle s'adresse.
Le langage est amené à bouger, à changer, comme vous venez de l'évoquer. Comment accompagnez-vous ces changements avec le temps ?
Vous voulez dire dans notre institut, dans les actions concrètes que nous menons ? Par exemple, nous sommes intervenus, je le citais pour La Poste en 1998, sur un programme de lettres. Eh bien, nous avons fait certes cet audit en montrant les atouts, les faiblesses et où étaient les troubles de ces lettres de réclamation. Il s'agissait de lettres de réclamation. Mais ce qu'on a fait et qui me touche le plus, c'était ensuite des programmes de formation. Donc, nous n'arrivons jamais en disant « il n'y a qu'à Faucon ». Et c'est là où on ne ressemblera pas à une agence de communication. Parce qu'on va essayer d'avoir des observatoires, de consulter des écoles de pensée diversifiées, de demander aux entreprises d'enfin se donner le temps et de sentir que ce capital extraordinaire qu'est la langue, il faut prendre le temps d'y penser parce qu'elle vous réfléchit d'une certaine façon, elle vous révèle. Et je crois que ce qui est très important, c'est de savoir qu'on peut à chaque fois bâtir un programme à la carte et que s'il doit inclure des formations, il inclura des formations. Si on doit faire venir Yannick Jolin, qui est le grand homme du conte en France, parce qu'il y a une très belle histoire à raconter et qu'il faut repartir du mythe profond de l'entreprise, d'une intelligence collective où l'imaginaire est sollicité, on saura le faire. Donc on va essayer d'offrir des moments de réflexion, des temps de pause pour que l'entreprise, le mot est très beau, puisse se recueillir.
Merci beaucoup, Jeanne Bordeaux.